Eh bien, chers frères, comme je vous l'ai dit, le temps est compté, et cette année d'une manière particulière, puisque, en quelque sorte, nous n'avons que 3 semaines pour nous préparer, il n'en reste plus que 2, puisque le 4e dimanche de l'Avent n'aura pas de semaine. 4e dimanche de l'Avent, c'est un dimanche, et dès le soir, ça sera déjà plus dimanche, ça sera déjà dès les vêpres de Noël. Alors, il nous faut donc nous mettre en face de ce texte qui nous parle de la venue dans le temps du Seigneur. Je vous propose, dans un premier point, de voir l'annonce de cette venue, et dans un deuxième point, de voir cette venue dans le temps qui nous sauve. Tout d'abord, l'annonce de la venue. Le Seigneur a été annoncé depuis longtemps, c'est-à-dire, figurez-vous, nous l'avons entendu peut-être si vous êtes allé à la messe de l'Immaculée Conception, depuis la Genèse. Et oui, le Seigneur n'a pas perdu de temps. Dès la chute de l'homme, il a prévu de venir nous sauver. C'est ainsi qu'il dit à la femme, « Ta descendance écrasera la tête du serpent. » Et oui, dès la faute, il y a déjà la bonne nouvelle du salut. Et dans l'Ancien Testament, vous l'avez entendu spécialement chez le prophète Isaïe, il était prévu d'envoyer un messager devant le Seigneur pour balayer le chemin, rendre droit ses sentiers, permettre que le Seigneur arrive. Jean-Baptiste, effectivement, est le plus important de tous les prophètes. Il ferme la porte, en quelque sorte, de l'Ancien Testament en désignant le Christ. Nous l'oublions parfois, nous l'oublions trop souvent. Jean le Baptiste, dans l'Église, nos frères orthodoxes, eux, nous le reprochent d'ailleurs parfois aussi, en tout cas, l'oublient beaucoup moins qu'ils le mettent systématiquement, si vous avez déjà vu une iconostase, les icônes qui sont devant l'autel, il y a toujours le Christ au centre, qu'il soit sur une croix ou en gloire, et puis il y a tout l'Ancien Testament, jusqu'à Jean le Baptiste, qui ferme la porte, et puis de l'autre côté, il y a la Vierge Marie qui ouvre les temps nouveaux. C'est dire si Jean le Baptiste est une clé indispensable pour comprendre le Christ. Je dirais juste un dernier mot de Jean le Baptiste qui nous est vraiment nécessaire car nous avons besoin de l'écouter au désert. C'est ce que nous faisons, ce temps de préparation de 4 semaines normalement est un temps de désert, un petit temps d'écoute de nouveau de la parole de Dieu. Une fois de plus, nous voulons entendre ce que veut dire que le Seigneur vient. Jean le Baptiste, qui était prêtre, qui aurait dû donc, prêtre juif, qui aurait dû succéder à son père, qui aurait dû se marier, qui aurait dû être dans le temple, eh bien, il n'a rien fait de tout cela. C'est ça le plus étonnant pour lui. C'est pas tellement qu'il ait prêché, c'est pas tellement qu'il ait appelé à la conversion. Cela avait déjà été fait avant lui par tous les prophètes. Ce qui est original pour lui, c'est qu'il a quitté le temple, c'est qu'il s'est consacré entièrement dans le célibat à Dieu. Ça, c'est très étonnant. Il inaugurait la venue du Seigneur, les temps nouveaux et le don total qu'il lui fallait faire pour rendre efficace sa parole. Sa parole, effectivement, était efficace. La voix de celui qui crie dans le désert, je ne sais pas comment on a fait pour comprendre, vous savez, aujourd'hui, d'une manière commune, quand on parle de quelqu'un qui crie dans le désert, ça veut dire que personne ne l'écoute. Or, si vous lisez l'Écriture, comme nous venons de le faire, c'est tout le contraire, puisqu'il a crié dans le désert et qu'une foule immense est allée à sa rencontre. Alors, cette voix qui crie dans le désert, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de désert, c'est parce qu'il n'y a plus de silence, c'est parce qu'il n'y a plus, je ne sais pas, il va falloir retrouver le moyen de crier dans le désert. J'espère que dans notre mission la semaine prochaine, sur le parvis, nous crierons dans le désert. C'est difficile de comparer la rue Saint-Honoré à un désert. En tout cas, peut-être parfois, un désert de Dieu, c'est possible. À ce moment-là, ça nous donnera le temps de crier. Et ce temps, justement, c'est la clé fondamentale pour comprendre Dieu. Trop souvent, nous l'oublions. Vous le savez, la liturgie nous ramène sans cesse au temps de Dieu, un peu de manière systématique. Et on pourrait se dire, quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière, « Ah oui, de nouveau, encore, hein, on va encore fêter Noël. » Ben oui, on va encore fêter Noël. Vous le savez, nous sans cesse, nous nous ramenons au même mystère. Nous essayons sans cesse de revenir au mystère central, Dieu lui-même. Parce que nous qui passons, nous qui changeons, nous qui nous dégradons, nous avons besoin, pour comprendre l'Éternel, celui qui ne change pas, celui qui ne bouge pas, eh bien nous avons... Il y a un mouvement en lui, mais il ne bouge pas, ça c'est... Voilà, il y a un mouvement d'amour en lui, mais il est inchangé. Eh bien nous avons besoin de revenir sans cesse à la liturgie de sa venue dans le temps. Un jour sont comme 1000 ans, dit Saint Paul, c'est-à-dire que en lui, il n'y a pas de temps. C'est nous qui sommes dans le temps et le Seigneur s'y est introduit. C'est ça que nous allons fêter à Noël. Je vous invite peut-être pour regarder d'une manière nouvelle le Christ qui vient à Noël, que vous l'ayez fêté 10 fois, 30 fois, 50 fois, 90 fois. Nos plus vieux paroissiens, j'en ai visité deux, les deux ont 97 ans, peut-être n'a-t-il d'autres encore, je vais essayer d'en trouver. Mais que nous ayons fêté une fois ou 100 fois Noël, il nous faut regarder avec un regard neuf. Un regard neuf pourrait être la question du temps. Le temps dans lequel le Seigneur est venu, car Noël, ce n'est pas se réjouir qu'il y ait un enfant qui soit né, parce que des enfants, il en est des milliers et des milliers, et c'est magnifique et c'est très beau, mais ce n'est pas ça qui a changé la face du monde, même si l'enfant change en général la face du monde qui l'entoure. Ce qui a changé définitivement la face du monde, c'est la venue du Christ, c'est-à-dire la venue de Dieu dans le temps, la venue de l'Éternel dans le temps, qui change la mesure même du temps. Je le disais avant-hier à un séminariste qui s'inquiétait d'avoir à faire un stage ou que sais-je, de perdre encore une année. Vous savez qu'il faut 7 ans pour faire un prêtre, hein, c'est long. Et alors le séminaire lui propose d'en faire une 8e année de préparation. Eh bien je lui dis, ce n'est pas grave. Quand on compte avec le Seigneur, quand on n'est plus englué dans le temps, quand on compte avec le service unique de Dieu, le temps n'a plus la même importance. Entrez dans le temps de Dieu, car c'est celui que nous fêtons maintenant. C'était mon premier point, le deuxième sera plus simple, plus court. C'est la venue qui nous sauve, car je l'ai déjà un peu défriché. Nous nous préparons à recevoir le Seigneur des Seigneurs, la lumière éternelle. Bien sûr, il se donne à vous en art, parce que tout à l'heure, en communion, c'est déjà ce qui va se passer. Vous allez le recevoir. Comment recevoir la lumière éternelle? Comment recevoir la pureté même sans aucun mélange de mal si nous-mêmes, nous ne nous préparons pas un tout petit peu à le recevoir, à nous laver les yeux, à nous laver les mains? La soirée de confession qui est présentée, qui est proposée, n'est pas faite pour une autre raison. Elle est faite pour nous permettre de nous unir d'une manière pleine et entière à cette préparation, à ce temps de conversion. La liturgie dit, non sans un certain humour peut-être, que l'Avent est une joyeuse pénitence. Essayez d'expliquer ça à l'extérieur dans le monde. Joyeuse pénitence, je crois que ce sont deux termes antinomiques. Eh bien non, dans l'Église, nous savons que nous pouvons nous préparer, car dans l'espérance, nous avons la joie de savoir que le Christ viendra, quoi qu'il arrive, réaliser son dessein de salut prévu depuis la création du monde, c'est-à-dire nous unir à lui. Et notre pénitence, notre peine, est que cela ne soit pas réalisé. Car si notre désir est réel de recevoir le Christ, combien il doit nous en coûter qu'il tarde à se réaliser ? L'opération du Seigneur qui se passe dans l'incarnation, c'est la divinisation promise à nos premiers parents. Lui, celui qui va venir, ce n'est pas un simple souvenir, ce n'est pas une simple nouvelle, une simple bonne nouvelle, c'est vraiment la recréation du monde. Alors, si vous voulez entrer dans le mystère de Noël, comprendre ce qui va s'opérer, si vous voulez vous-même y coopérer, il vous faut, une fois de plus, mes bien chers frères, changer vos cœurs, changer vos habitudes, revenir à Dieu, vous séparer du mal et faire le bien avec véhémence, dit un texte pontifical. Il nous faut le faire avec ardeur, car c'est lui qui va changer notre vie. Ainsi soit-il.